Vous écoutez
RMC. Les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup de votre fidélité en direct, mais également en podcast. Nous venons de battre un nouveau record au mois d'octobre. C'est grâce à vous, évidemment. Merci d'être avec nous et n'hésitez pas à aller télécharger la première heure si vous l'avez manqué. À 9h, nous évoquions la victoire difficile, mais une victoire tout de même du 15 de France face à l'Australie. Une petite ou une grande victoire. Le débat assez houleux, assez mouvementé. C'était à 9h et si vous voulez en reparler, ce sera à 11h40 avec vous. Vous composez le 32-16. Toujours avec Simon Dutin, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Stephen Brun. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour d'Igor Tudor. Joue-t-il sa tête ce soir face à Lyon, 10h30, un homme en colère. Pierre Amiche veut nous parler du report de la route du Rhum qui devait s'élancer aujourd'hui. Et puis 11h, le bras de fer des GG, c'est le Money Time pour Fabio Quartararo, le dernier Grand Prix MotoGP de la saison. La donne est claire, il faut gagner et que Francesco Bagnaia termine hors du top 14. Je ne parle pas de rugby évidemment. Il y aura une team, j'y crois, une team. J'y crois pas, vous pouvez aller voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Antoine de Rivarol a dit un jour, les rois continueront à perdre la tête tant qu'ils porteront la couronne sur les yeux plutôt que sur le front.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
On le joue rapidement, de temps.
Oui.
Et là voilà.
Avec la taille de la part de Clément. L'égalisation!
Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce.
Ah, il est bon, ça sort!
Et vous vous enfoncez sans réagir?
Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants.
Allez, il faut l'accompagner!
C'est pas vrai! Et le Rhum a perdu! Comme j'ai dit, il y a eu une grande incompréhension sur le terrain. Bien sûr qu'on voulait pousser pour aller en 8e de finale. Il n'y a pas eu une assez bonne communication et on paye cash ce soir.
C'est pas son jour, dit dedans. C'est jamais son jour.
Le bon moral sur les chaussettes.
Merci à Suzanne Folli pour la production sur l'Olympique de Marseille. Il a donc fallu 2 semaines à Igor Tudor pour épuiser une bonne partie de son crédit acquis depuis le début de la saison. 3 défaites, 1 nul en 10 jours. Et surtout, vous l'avez entendu, cette élimination de toutes les compétitions européennes cette semaine après une fin de match hallucinante face à Tottenham. Tout va très vite dans le football, paraît-il, à Marseille plus qu'ailleurs. D'autant que l'OM affronte 2 concurrents directs, Lyon ce soir et Monaco la semaine prochaine avant la trêve Coupe du Monde. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Igor Tudor, joue-t-il sa tête ce soir, oui ou non? Stephen Brun.
Non.
Pascal Dupraz.
Oui, à très court terme.
Hein?
Simon Dutin.
Non.
Sarah Pitkowski.
Eh ben non aussi.
J'ai un oui, j'ai un non avant de débattre. 3 noms, pardonnez-moi. On retrouve notre correspondant à Marseille, Florent Germain. Salut Florent. Vendredi, en conférence de presse, pour la première fois, Igor Tudor a fait son mea culpa.
Oui, c'est vrai, mais c'est un petit mea culpa, n'exagérons pas. C'est uniquement concernant le coaching donc contre Tottenham, parce que Igor Tudor a reconnu, c'est vrai, c'était vendredi en conférence de presse, bon, qu'il n'a pas forcément été très inspiré dans ses changements mardi en Ligue des Champions.
Riguardando la gare, là, ho sbagliato.
Je pense avoir fait une erreur. Je pense que Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure mardi soir. On fait tous des erreurs. Klaus aussi aurait dû rester sur le terrain. Il aurait pu marquer. Il faut que je fasse mon autocritique. Mettre Suarez à la place de Payet, j'aurais pu faire un changement différent.
D'ailleurs, précisons que ce n'est pas la première fois que le coaching de Igor Tudor est dans le viseur. L'OM ne marque plus en deuxième période depuis 7 matchs. C'est quand même beaucoup. Et les dirigeants eux-mêmes, on peut vous confirmer l'info, n'ont pas toujours compris les choix de leur entraîneur ces dernières semaines. Par son management, Igor Tudor a peut-être perdu aussi certains Olympiens. Alors, est-ce le moment pour relancer Dimitri Payet, puisqu'on parlait de lui? Bah, écoutez le numéro 10 de l'OM qui garde le moral et qui surtout ne veut pas se plaindre.
À chaque fois que je suis passé par des moments où je jouais moins, j'ai travaillé pour regagner ma place. Et c'est pas aujourd'hui, à cet âge-là, que je vais aller me plaindre à mes dirigeants. Si je suis à mon niveau, si je suis décisif, je pense que le coach est pas fou. Si tu fais gagner les matchs, il va forcément te mettre.
Et ton avenir est à l'OM.
Ah, ça changera pas. Et c'est pas aujourd'hui que je jetterai l'éponge.
Et d'ailleurs, ce match contre Lyon, il est primordial pour vérifier que tous les joueurs sont dans le même état d'esprit, car il y a un épisode qui a quand même laissé des traces mardi, c'est la gestion de la fin de match contre Tottenham. Les joueurs, on le rappelle, en veulent à Igor Tudor de ne pas les avoir prévenus qu'un match nul les envoyait en Ligue Europa. Tudor n'a pas assumé cette erreur vendredi en conférence de presse. Il a plutôt chargé la manière de défendre de ceux qui étaient sur la pelouse. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais d'un petit mea culpa et qu'en ce sens, le match de ce soir contre l'OL est un révélateur pour savoir si l'OM a vraiment tourné la page.
Merci beaucoup Florent Germain pour toutes ces précisions. N'hésitez pas à réagir à ce débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Igor Tudor joue-t-il sa place ce soir? Stephen Brun, c'est non, pourquoi?
Alors déjà, je veux dire qu'il y a quand même Pascal Le Vautour, hein, qui lui souhaite que Tudor soit viré, parce que même s'il prend son pied dans les grandes gueules du sport, il prendrait bien un petit job sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille.
Je te répondrai, je te coupe pas.
Non, pourquoi? Parce que déjà virer Tudor, ça voudrait dire que c'est une décision qui vient de Pablo Longoria. Ça veut dire donc que Pablo Longoria affiche aux yeux de l'Europe du foot que lui-même s'est trompé, parce que c'est le choix du président de l'OM. Et rappelez-vous au mois d'août, quand il y avait le feu sur la préparation, où les joueurs étaient très surpris que Tudor soit un petit peu de poigne. Convocation, conférence de presse. Longoria arrive, il dit écoutez-moi bien, Tudor il est là. Ceux qui sont pas contents avec le management d'Igor Tudor, merci, au revoir, solde de tout compte et bonne chance pour la suite de votre carrière. Donc je crois que Longoria lâchera pas Igor Tudor. Et ce qui me fait dire que Tudor a un bail un peu plus long terme à l'Olympique de Marseille, c'est que la différence, parce qu'il y a un autre coach qui s'appelle Peter Bosch qui a été évincé de l'Olympique Lyonnais, c'est que l'Olympique de Marseille, malgré tout, joue bien au football. J'y sais. Ils font des matchs cohérents. À Lyon, c'était n'importe quoi. Ils jouent bien au foot, l'Olympique de Marseille. Alors, parfois, ils jouent bien que 45 minutes. Mais sur des matchs de Champions League, on voit après qu'ils sont un petit peu cuits sur la deuxième mi-temps. Il n'y a pas de crise dans le jeu à l'Olympique de Marseille. Ils perdent des matchs. Hein, ils mènent 2-0 contre Strasbourg. Ça fait 2-2. Contre Lens, ils perdent 1-0 sur une frappe contrée. Alors que...
Il n'y a pas de crise dans le jeu, mais on a senti une petite fracture avec cette fin de match entre les joueurs et le coach.
Oui, mais la fracture, ça me fait rigoler les gens qui disent il est scandaleux, il aurait dû tenir au courant les joueurs pour préserver une qualification en Europa League. Mais peut-être que s'il n'avait pas joué le coup jusqu'au bout et qu'ils avaient préservé le score pour être en Europa League, on serait tombé sur Tudor pour dire mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est frileux, il ne veut pas aller chercher la qualif en 8e de finale. Kolasinac, il a une tête à deux doigts à la 87e pour aller en 8e de finale du Ligue des Champions. Et vous voulez que Tudor, ils disent non, on défend pour assurer l'Europa League.
Je parle pas des observateurs, je parle des joueurs qui ont reproché à Tudor de ne pas savoir.
Parce que justement, il voulait pas mettre le doute dans les joueurs, il voulait continuer à pousser parce qu'il a vu une occasion de Kolasinac à la 87e et il dit on est dans le bon sens, on va aller l'accrocher.
Calme-toi, Stephen, t'as raison.
Pascal Duprat.
Pourquoi je m'énerve d'ailleurs?
On n'est pas certain que les joueurs n'aient pas été informés. On n'en est pas sûr. Bon, tout ça pour dire que c'est vieux comme le monde. Par contre, dès que tu perds, l'entraîneur, il est seul au monde. Donc, les joueurs contestent. Celui qui conteste le moins, c'est tout à son honneur, c'est Payet. Ok, parce que Payet, il dit rien, il reste tranquille, serein, et il attend son heure, il bosse. Par contre, j'ai entendu tout à l'heure notre collègue qui parlait de Longoria et des dirigeants qui commençaient à s'interroger sur les choix de Tudor. Mais rien de mieux pour le mettre en difficulté que de le contester ses choix.
Parce qu'on n'a pas fait la casette à Lyon, par
exemple. Ce qui me fait dire que Tudor est sur un siège éjectable. Alors quand j'ai dit tout à l'heure que oui, le match de Lyon va être déterminant pour lui, parce qu'ensuite il y aura le match de Monaco, comme tu le disais, JC, dimanche prochain. Et si d'aventure, l'OM venait à perdre ces deux matchs-là, ça ferait quand même beaucoup. Ça ferait 9 matchs sans victoire pour l'OM. Et surtout, ça ferait 6 matchs en Ligue 1 sans victoire. Ça ferait 1 point sur 18. Donc à partir de là, la position serait intenable. Alors je suis d'accord aussi avec toi, Stephen, parce que tu dis que Longoria, c'est lui qui l'a choisi et que Longoria, il le soutient. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au-dessus de Longoria, il y a McCourt, il y a celui qui paye. Et au bout d'un moment, il va en avoir marre. Sans compter sur le public qui va se mettre à hurler. On sait qu'à Marseille, le public a une grande importance. Tant il est grand, tant il est fort et tant il sait se faire entendre. Donc tout ceci pour dire qu'un entraîneur, quand il n'a pas de résultat, eh bien, il est toujours menacé. Et Tudor n'échappe pas à la règle, malheureusement.
Et on laisse évidemment Pascal Duprat aller à la messe, car c'est l'heure de la messe, et on entend derrière lui les cloches, hein. Il n'est pas avec nous physiquement, notre ami Pascal. Donc tu peux y aller, mais tu reviens vite, tu prends l'hostie et puis tu viens, voilà. Exactement.
Il va peut-être mettre un cierge pour... pour Tudor, non ?
Peut-être pas quand même.
Oui.
Pour l'OL.
Non, mais en fait, oui, là encore, c'était la boutade du jour me concernant, ou une des boutades du jour me concernant de Stephen. L'OM, c'est un club magnifique. N'importe quel entraîneur français rêverait d'entraîner l'OM.
Mais
j'ai perdu mes illusions concernant ces clubs-là. Non, mais l'OM, c'est un club extraordinaire. Et parce qu'il est extraordinaire, aussi, ça renforce, eh bien, ma position, à savoir, Tudor est en difficulté. Il faut absolument que l'OM gagne contre Lyon pour dissiper les doutes.
Ok, dissiper les doutes. Sinon, bah, à court terme, comme tu le disais, bah, il est franchement menacé. C'est ton avis, Simon Dutin.
Je pense que la vision qu'on a, elle est un petit peu tronquée par effectivement l'excellent début de saison, même au-delà des espérances de l'OM, qui a longtemps été avec le même nombre de points ou juste un point de retard sur le Paris Saint-Germain. Début de saison d'autant plus spectaculaire que Stephen l'a rappelé, l'avant-saison avait été un petit peu catastrophique, on s'inquiétait, on se demandait si Tudor allait tenir 2-3 matchs. Du coup, je pense que, alors certes il y a cette mauvaise série, mais et Pascal va me dire que c'est jamais bon signe, mais malgré tout, il a été conforté par la direction qui nous a assuré.
Oui, mais c'est jamais bon signe, je suis d'accord avec Pascal.
C'est jamais bon signe, mais bon, en même temps, tu prends toujours le risque de te ridiculiser si dans la semaine tu dis l'entraîneur il est pas menacé, et si tu dis. Non, mais alors moi je prête à Ribalta, et Longoria avec leur parcours et leur sérieux, je sais pas, des façons de fonctionner qui sont un petit peu différentes de ce à quoi on a été habitué ces dernières saisons en Ligue 1.
Il y a des fêtes ce soir pour l'OM, ce qu'on n'espère pas pour l'Olympique de Marseille.
Ils seront toujours à un point devant. Je te dis pas que ça va améliorer les affaires de Tudor s'ils perdent ce soir, mais ils ont un point de plus que la saison dernière après 13 journées. Et à l'époque, Sampaoli était encore sanctifié. On vendait des reliques du technicien argentin dans Marseille, et c'était un dieu vivant. Donc effectivement, là encore une fois, il y a cette série. Tous les adversaires de l'OM font remarquer que l'OM joue très bien. Le Vélodrome est toujours à guichet fermé. Il le sera encore une fois ce soir. C'est important, effectivement. C'est quand même un des décideurs aussi, le public du Vélodrome. Alors, il ne va pas falloir non plus que ça dure. Je pense qu'il va falloir qu'il change un tout petit peu aussi son équipe type, parce qu'au Vélodrome, tu as besoin d'entretenir cette passion pour les idoles. Et quand tu laisses le patron sur le banc, Payet, mais que tu n'arrives pas à faire émerger un autre, genre Sanchez, qui est utilisé un peu à contre-emploi, je pense qu'il prend un risque. Il a lui-même sorti son propre extincteur, parce qu'il commence, on l'a souligné, à faire un petit peu son autocritique. Voilà, je pense qu'effectivement, ils vont lui laisser, comme Peter Bosz à l'OL, ils vont lui laisser au moins faire une saison sur le banc de l'OM. Je l'espère pour lui, en tout cas, pour l'OM.
Pascal, tu voulais réagir, et après Sarah.
Non, ça pourra pas aller jusqu'à la fin de saison si ça dure comme ça dure. Mais à sa décharge, alors certes Alexis Sanchez a eu une mi-temps ou 45 minutes dans les jambes, mais il manque de solutions offensives. Et malheureusement, eh bien les entraîneurs, eh bien ils doivent faire sans. Et Tudor, il doit trouver les solutions sans véritable numéro 9, sans véritable attaquant, sans solution de rechange.
Pascal, là pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, parce que des solutions offensives, non mais il en a. Alors si tu me parles de vrai numéro 9 comme Milik, ok, là on peut discuter.
C'est bien dont ce dont
d'accord,
je parlais.
D'accord, ok.
Ouais, parce que pas de numéro 9.
Oui, enfin il est pas obligé de mettre Guendouzi limite en 10. Il a d'autres armes quand même.
On tombe sur Tudor, mais on va pouvoir faire le procès de Longoria aussi, parce que Tudor va pas lui dire, écoute mon grand, t'es gentil. Mais pourquoi vous avez prêté Milik à la Juventus de Turin alors que ça a été très bien avec Sanchez? Pourquoi vous avez pris pour 12 millions Luis Suarez qui met pas un pied devant l'autre? Tudor, il peut avoir des griefs contre Longoria. Donc Longoria, à un moment donné, il va être exposé.
Mais oui, mais parfois sur les homonymes, on peut se tromper. Moi, Luis Suarez à 12 millions, je le prends. Ah, voilà. Sauf que
il a fait ses chicots.
C'est pas devant. Sarah Pitkowski, et vous êtes nombreux à nous appeler. On accueillera Grégory, supporter de l'OM, au 32-16 dans quelques instants.
Je vais juste apporter un petit point qui correspond à souvent à mes prises de position qui sont très pécuniaires, mais on sait que l'OM a choisi Tudor en lui proposant un salaire qui est de la moitié de Sampaoli, et que si il s'en sépare aujourd'hui, il y a quand même un gros chèque qui sera à sortir là tout de suite, qui serait pas loin de 2,5 millions, voire peut-être 3 millions avec les indemnités. Donc je me dis, ils vont lui laisser un petit peu de temps, parce que voilà, alors pour le PSG, 2 millions, 3 millions, c'est rien du tout, mais je pense que pour l'OM, ça fait ça se réfléchit, et comme ils ont pris ils ont été chercher un un entraîneur avec un salaire bien moindre, c'est qu'il regarde aussi les finances du club. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais apporter, okay, qui dit que le, peut-être qu'il a encore quelques semaines
à tenir. Le petit point budget, c'est important.
Budget, oui, oui, c'est toujours budget. Important.
Non, et puis il va falloir, alors je sais que c'est un club particulier, mais est-ce qu'on peut pas apporter un peu de stabilité dans ce club? Quel est l'intérêt de changer Igor Tudor? Ça veut dire que ça ferait cinquième coach viré en 6 ans. Moi, à un moment donné, un peu de stabilité, ça fait du bien. Regarde, le meilleur exemple, c'est Arsenal. Quand Arteta arrive fin 2019, début 2020, Arsenal met pas un pied devant l'autre. Arteta, elle arrive, ils mettent pas un pied devant l'autre avec Mikel Arteta. Aujourd'hui, ils sont leaders de Premier League ou deuxième parce qu'ils ont un match en retard.
On nous sortait le même argument pour Peter Boss. C'est exactement le même argument.
Ils ont attendu. Ouais, au moins ils ont
attendu. Il a fallu une saison complète, Peter Bosch, et là il a
début d'une frappe
mémoire.
Donc ils ont attendu. Mais au bout d'un moment, quand ça vient pas, donc soyons patients un peu avec Igor Tudor. Aujourd'hui, Arsenal, ils sont contents d'avoir laissé Arteta. Okay. Ils sont leaders de Première Ligue.
Grégory avec nous.
Stabilité, ça fait pas de mal un peu, Jean-Christophe.
Oui, dans l'émission des grandes gueules du sport, je suis d'accord avec toi. Il faut laisser l'animateur s'installer. Pour les bandes touches, c'est peut-être différent. Grégory nous appelle au 32-16. Salut Grégory.
Bonjour à tous, salut, merci de m'accueillir.
Bonjour. Salut Greg.
Merci de nous appeler. Alors pour toi, il joue sa tête ou pas, Igor Tudor?
Pour moi, oui, parce que comme le disait tout à l'heure Pascal, ça peut pas durer comme ça trop longtemps. On en sera à 7 ou 8 matchs sans victoire, en comptant éventuellement une défaite ce soir et puis celle de la semaine prochaine contre Monaco. Ça va faire beaucoup trop. Mais on entend... Enfin, Igor Tudor, c'est le stéréotype de l'entraîneur qui n'a pas suffisamment d'envergure. C'est d'ailleurs sur votre chaîne que l'on a entendu sur Rotten sans flamme. Je ne sais pas si c'est Jérôme Rotten qui le disait ou bien un auditeur. Peu importe, parce que de toute façon, ce qui a été dit est vrai. Donc, peu importe. À savoir que Igor Tudor ne sait pas lire un match. Pour preuve.
C'est Jérôme Rotten qui disait ça.
Eh ben voilà, merci à Jérôme parce que c'était très bien dit. Eh ben, pour preuve, il sort Guendouzi contre Francfort. On se demande encore, et même Eric Dimeco se demande encore, comment est-ce qu'il a pu sortir. Ensuite, il sort Jonathan Klaus contre Tottenham. Il fait rentrer Kolasinac, qui, à part faire des fautes, Kolasinac, il n'est pas dedans du tout. Il fait rentrer Issa Kabore. On a toujours le problème Nuno Tavares, qui conduit très mal sa balle. Et, enfin, en fait, on entend que le champ lexical de l'entraîneur qui n'est pas dans une situation confortable en tant qu'entraîneur. Il y a des choses qu'il ne sait pas faire, il y a des choses qu'il ne voit pas, parce qu'il n'a pas assez d'envergure, parce qu'il n'a pas assez d'expérience. Et de toute façon, la Ligue des Champions, c'est pas compliqué, hein. C'est soit t'as un entraîneur et des joueurs chevronnés, soit tu fais rien du tout. Et on l'a bien vu contre Tottenham. Une première mi-temps franchement superbe. Moi, j'étais heureux qu'on marque, qu'on mène 1-0. Cette équipe de Tottenham était complètement ravagée par l'OM. C'était super. On revient en seconde mi-temps. D'accord. Eh ben, plus rien. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire pour que les joueurs passent d'un super truc à un truc nullissime? Et je parlerai pas de la fin de match parce que c'est trop tôt pour en parler pour toi.
J'ai compris.
Oui, mais c'est de la frustration. La frustration, c'est un sentiment qui est très difficile à vivre quand vous êtes supporter. Je pense que même un entraîneur, c'est pareil pour lui. Mais pour en revenir à Igor Tudor, pour moi, il joue sa tête. Ce soir, s'il perd contre Lyon, non seulement il aura perdu contre Lyon, aux yeux des supporters, c'est pareil que de perdre contre le PSG, d'accord? Mais en plus de ça, si vous regardez bien, sur les 6 ou 7 derniers matchs, on joue 3 grosses équipes. On peut même compter Lens comme grosse équipe. On peut la compter, cette équipe de Lens, elle est magnifique. Donc on perd contre eux. On perd contre le PSG, et on perd contre Tottenham. Et on peut même rajouter Francfort, qui est quand même le dernier vainqueur de l'Europa League, si je ne me trompe pas, et on a perdu aussi. On a perdu. Donc à partir du moment où vous avez un entraîneur, d'accord, qui entraîne l'OM et qui perd tous ses matchs contre les plus grosses équipes contre lesquelles il a joué jusqu'à maintenant, eh ben moi, pour moi, il y a un truc qui va pas. Là, il y a une fracture, il y a quelque chose qui va pas du tout. Parce qu'on doit les gagner. Et comme le disait tout à l'heure, je sais plus lequel d'entre vous disait ça, peut-être qu'il restera, parce que malgré tout, l'OM joue bien, c'est vrai de le dire, c'est vrai qu'il a du crédit de ce côté-là, parce que l'OM joue bien, mais il n'en demeure pas moins que c'est insuffisant.
Et il faut des résultats, on a bien compris, Grégory.
Et vous avez quand même été très tolérant avec Sampaoli, qui a quasiment pas gagné un match au Vélodrome l'année dernière. Ouais.
Juste rapidement, des choix qui interrogent, c'est ce que nous dit Grégory. Je voudrais juste entendre rapidement, mon cher Pascal, là-dessus, le mea culpa d'un entraîneur, on l'a entendu concernant Dimitri Payet, c'est une bonne chose de faire son mea culpa quand on est entraîneur ou pas?
C'est difficile pour moi de répondre, voilà, comme ça, en tant qu'observateur.
Bon, j'ai presque envie de lui répondre, mais c'est tombé à coup de pas. C'était au moment du match.
C'est Bottiette qu'on entend.
Non. il fallait peut-être, je sais pas, prendre cette disposition sur le terrain pendant le match. Il me semblait, mais j'ai pas tous les tenants, les aboutissants. C'est pour ça que je voudrais répondre à l'auditeur. C'est trop facile de dire que l'entraîneur a pas d'expérience ou que l'entraîneur est pas bon. C'est facile aussi quand on est consultant ou quand on est journaliste de dire que l'entraîneur est pas bon. Il faut avoir été assis sur un banc, il faut connaître les problématiques de l'entraîneur pour savoir que c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que les entraîneurs sont très bien payés et c'est pour ça que les sièges sont éjectables. Donc encore une fois, je ne souhaite pas le départ de Tudor. Je réponds à une question, oui, il va être en danger si jamais il venait à perdre contre Lyon, c'est obligatoire.
Et ben voilà, c'est la loi. Compris. Et entre les lignes, j'ai compris que le mea culpa, c'était pas forcément la meilleure des choses à faire non plus quand on est entraîneur.
Pour moi, elle a pas de sens. En tout cas, pour ce cas-là, mais encore une fois, j'ai pas les tenants, j'ai pas les aboutissants. Dire après coup que j'ai eu tort, qu'ils le disent à ses joueurs, s'ils ont envie de le dire, mais je vois pas pourquoi le dire à la presse.
Ok, parfait. On va s'arrêter là-dessus. Juste une précision pour vous dire une information, parce qu'on parlait de Dimitri Payet. La tendance, c'est qu'il soit sur le banc ce soir pour débuter la rencontre.
Mais à coup de pas quand même.
20h45.
Oui, alors, évidemment, la tendance, c'est que Sanchez joue aussi un cran plus bas malgré tout. Ça serait déjà pas mal.
Bambadier est titulaire avec Sanchez. C'est un dispositif différent déjà.
Ok, on en parlera dans les paris sportifs à partir de midi. Et si vous voulez réagir, c'est 11h40 dans les grandes gueules du sport au 32-16. Dans quelques instants, un homme en colère. La route du Rhum. D'ailleurs, nous avons la précision. Ça y est, c'est tombé, c'est officiel. Le départ, ce sera mercredi 14h15. La route du Rhum qui a été reportée en raison des conditions météo. Ça devait s'élancer aujourd'hui et vous allez voir, il a un regard neuf, nouveau, magnifique de la part de Pierre Amiche. Et Yannick Bestaven sera notre invité, le dernier vainqueur du Vendée Globe. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32, de retour dans les grandes gueules du sport. Merci de votre fidélité. Il y a quelques instants, nous avons parlé de l'Olympique de Marseille. Igor Tudor joue-t-il sa place? N'hésitez pas à réagir, le 32-16. Ça appelle beaucoup au standard. On pourra évidemment en reparler à partir de 11h40. Dans une dizaine de minutes, le zapping des GG, avec notamment Lens. Plus que jamais, dauphin du Paris Saint-Germain après la victoire hier face à Angers de Buzyn. Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, ce sera à vous de me dire dans quelques instants. On est toujours avec Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Simon Dutin et Stephen Brun. Et tout de suite, comme tous les dimanches, il est en colère.
RMC,
l'homme en colère.
Mais pourquoi est-il aussi méchant? Pierre Amiche,
bonjour.
Bonjour à tous.
Le bon en colère.
Aujourd'hui, je suis un homme en colère après les nouveaux marins du petit monde de la voile. Non, pas parce qu'ils ne prennent pas le départ hein, de la route du Rhum, hein, alors qu'ils devaient faire des vagues de 11 mètres. Ça, moi, j'en ai rien à cirer. Hein. C'est eux qui sont dans le bateau, ça serait un peu cocasse que je vienne expliquer à des mecs dont c'est le métier que risquer sa peau, c'est panache, alors que moi, je suis le cul dans mon canapé, que je suis malade en péniche. Et puis, qu'ils partent ou qu'ils partent pas, moi, je vous avoue, ça chamboule pas des masses mon quotidien. Hein. Puis la voile, déjà, quand j'étais petit, ça me gonflait. Hein. Non, ce qui me met en colère, c'est que les mecs, ils font plus le boulot. Avant, les marins, c'était les taiseux. À terre, ils parlaient pas. En mer, ils parlaient plus. Ils avaient des barbes de 4 mois, le regard perdu dans les horizons mélancoliques, bercés par la nostalgie des langueurs océanes. Tu veux un mouchoir, Steph? Non, je sens que tu saignes du nez. Il y avait trop de mots complexes. Avant, il y avait des bretons et des alcooliques, et même souvent, c'était les mêmes. Mais les mecs, c'était des durs, des rudes, des velus. Ils se coupaient le bout du doigt, et ben, ils se tranchaient la main. C'était celui qui se situait à la croisée des chemins, moitié aventurier, moitié pirate. Les marins, c'était Carsozon, Bourgnon, Artaud. Ils foutaient les miquettes, les types. Ils avaient des gueules pas possibles, ils fumaient des gitans de maïs en rotant. Et puis, quand ils se tiraient sur les bateaux, on était pas sûr de les revoir. Ça chialait dans tous les ports. Maintenant, la flotte, c'est que des Français et des Suisses. Il y a même pas la mer en Suisse! Et puis là, François Gabart, je suis désolé, il fait peur à personne. Hein. Les gonzes, ils sont intelligents, ils sont bardés de diplômes de l'espace. Pesquer à côté de Leucléache, c'est un sec pas option chimie. Hein, les marins d'aujourd'hui, ils tuent la légende. Ils causent comme dans les bouquins. Ils font des pubs pour les assurances parce qu'ils sont rassurants. Ils sont écolo-vegan déconstruits. Mais ils sont où les bonhommes mi-sextant, mi-poulpe qui sentent le varech et la femme d'hier? Maintenant, oh, ils sont beaux. Les mecs, c'est des gravures de mode. Ils sentent bon, ils sont jeunes. Avant, les mecs qui prenaient la mer, c'était Barbe Noire, Akam le Rouge. Maintenant, c'est le Petit Prince et le Bisounours Arc-en-Ciel. Ils me rendent fou. Ils sont tous que je suis pas. Moi, je veux pouvoir m'identifier. Donc, c'est pas possible, ça. Moi, je suis sûr qu'ils sont blindés, en plus. Hein. Et puis, rien que les mots ont changé. Avant, c'était des marins. Maintenant, c'est des navigateurs. On dirait des trucs Internet. Quand j'étais petit, Moi, j'ai fait l'école de voile tout un été. C'était l'été le plus froid du siècle. 14 juillet, il faisait 9 degrés, il pleuvait non-stop depuis 15 jours. Eh ben, j'y allais, mon petit pote. Je faisais pas ma sucrée, je montais dans mon bateau affreux, je prenais des seaux d'eau sur la gueule et je chialais dans l'optimiste. C'était l'enfer total. Pascal à santé, zéro plaisir. Un long et douloureux été ressenti de l'histoire. 12 ans et demi. Voilà. Alors, résumons. La voile, c'est un moyen de transport filmé pratiqué par des playboys franco-suisses qui refusent de prendre la mer quand c'est pas un billard fumier. Alors finalement, bon, j'ai changé d'avis. Balancez-moi tous ces beaux gosses dans une mer déchaînée. Eh ouais, mes cocos, le bateau, c'est dans la mer. Et des fois, la mer, ben, bouge, désolé. Hein, puis mieux, alignez-les contre un mur et que les anciens marins qui ont toujours un avis sur tout viennent les rafaler, hein, qu'on les insulte dans tous les ports de Dunkerque à Toulon et dans toutes les écoles d'ingénieurs. Crac! Un tard, Ben Jelloun écrivait, la jalousie est le miroir de la laideur. Eh ben, je suis dégueulasse. Mais moi, au moins, je sais où est ma femme. Enfin, je crois.
Merci beaucoup, Pierre Amiche. À mon avis, Yannick Destamène, qui sera notre invité dans quelques instants, va apprécier ton papier. Oh, un poil exagéré, peut-être, mais vous le connaissez, notre Pierre Amiche. Je vais quand même vous demander si vous êtes en colère ou pas après ces nouveaux marins, comme les appelle notre ami Pierre Amiche, même si je sens poindre votre réponse. Simon Dutin.
Non, je ne suis pas en colère.
Non, pas en colère. Pascal Duprat.
Non.
Pas en colère. Stephen.
Pas en colère.
Ce serait déplacé de l'être.
Ok, Sarah, toi qui connais bien le monde de la voile, tu as travaillé sur beaucoup d'événements autour de la voile, notamment le Vendée Globe. C'est quoi ton regard sur ce départ qui a donc été reprogrammé, je le rappelle, je donne l'info, c'était il y a quelques instants, mercredi à 14h15, et sur ce que nous dit Pierre, est-ce que ça fait écho chez toi?
Ça fait écho parce que on se berce toujours des souvenirs qu'on peut avoir et des récits qu'on lisait, alors qu'aujourd'hui, oui, la voile, c'est un milieu qui a totalement évolué et ce que j'apprécie beaucoup dans le milieu de la voile aujourd'hui, qu'ils sont pas juste des navigateurs, ils sont pas juste des skippers, c'est qu'aujourd'hui dans leurs épopées, ils portent des projets qui sont tous individuels et dans la société dans laquelle on vit, eh bien on a besoin de gens et de sportifs qui portent des messages et des ambitions, et je pense pas que ça soit surfait, surtout le fait que ça soit des gens bardés de diplômes ou des ingénieurs ou des spécialistes aéronautiques et tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, l'univers et le milieu de la voile sont là aussi pour faire évoluer d'autres choses. Donc, voilà, il faut évoluer avec son temps. Et bon, alors, c'est toujours agréable d'entendre les papiers de Pierrot, mais ça fait un moment qu'ils sont plus barbus et pirates, les navigateurs,
et
quand même.
Ils sentent le poisson, comme nous dit.
Ils sentent plus le poisson à l'arrivée, ça fait un moment, quand même.
Comme nous dit Pierre Amiche. Il a dû apprécier la chronique, c'est Yannick Bestaven, c'est une star, évidemment, dans le monde de la voile, le dernier vainqueur du Vendée Globe, skipper de Maître Coq. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Bonjour Yannick.
Merci d'être avec nous, Yannick. Ta première réaction sur ce portrait, fidèle ou pas fidèle pour toi de Pierre Amiche?
J'adore ce qu'a dit Pierre, et moi je propose de l'amener en mer surtout pour qu'il puisse écrire en mer. On écrit mieux lorsqu'on est sur l'eau. Mais non, j'adore. C'est vrai le comparatif. Après c'est vrai que la course au large a énormément évolué entre les aventuriers de l'époque qui partaient avec des bateaux construits de leurs mains et des fichiers météo pas trop maîtrisés, c'était la vraie aventure. Maintenant notre sport s'est professionnalisé, on connaît les tempêtes auxquelles on va avoir faire face. Moi j'en ai eu quelques-unes sur le Vendée Globe. Là c'est sûr que quand on peut les éviter, rester à terre pour permettre à 138 bateaux de prendre le départ dans les meilleures conditions pour arriver de l'autre côté. Je pense que c'est intelligent parce que ce qu'il faut voir surtout, c'est les secours que ça engage pour venir nous chercher lorsqu'on est à l'envers. Ça coûte cher et puis on met en péril la vie de ceux qui viennent nous sauver. Donc l'intelligence veut que lorsqu'on peut éviter une baston, il vaut mieux le faire.
Simon Dutin, une question pour toi. Yannick Bestaven avec nous en direct sur RMC.
Bonjour Yannick, je suis comme beaucoup de mes confrères obligé de vous revenir sur la déclaration de Michel Desjoyeaux, qui est forcément un de vos illustres prédécesseurs, qui a déclaré donc cette semaine, alors qu'on s'interrogeait encore sur l'opportunité de reporter le départ, que bon, c'était la route du Rhum, que c'était pas une traversée de baignoire. Vous qui alliez prendre le départ, comment vous avez reçu cette déclaration, sur quel bord vous trouviez? Est-ce que vous étiez plutôt pour, ou est-ce que vous trouvez que c'était un peu déplacé de sa part?
Et j'ajoute, est-ce que ça a fait débat aussi au niveau des skippers de savoir si on devait ou pas prendre le départ une fois que la décision est tombée hier?
Non, je pense pas que ça ait fait débat. Alors c'est sûr qu'il y a des avis partagés. Et puis c'est encore une fois, c'est facile de parler lorsqu'on est en terre, de dire ben moi j'aurais pu y aller, ça passait, etc. Ça on le sait jamais. Moi je veux juste rappeler qu'en 2002, la classe Orma dans laquelle courait Michel Desjoyeaux, il y a eu 10 multicoques à l'envers, je crois, et ça a été la fin pure et simple de cette classe catégorie de bateaux. Donc voilà, faut rester humble par rapport à ça. On n'est jamais les plus forts face aux éléments. Donc moi je respecte tout à fait cette décision du directeur de course, je crois qu'elle est courageuse parce qu'elle impacte beaucoup de choses au niveau médiatique, le départ, le direct qu'il devait y avoir aujourd'hui, au niveau économique, enfin il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais je pense qu'avant tout c'est l'intelligence et la sécurité, parce que lorsqu'on met des moyens en place pour venir chercher des marins solitaires à l'envers sur leur bateau, ça coûte très cher et c'est très compliqué, c'est la vie des marins aussi qui est en jeu. Donc la course au large c'est pas les jeux du cirque, que ce soit l'aventure et Dieu sait si on la connaît lorsqu'on part faire un tour du monde en solitaire, mais c'est pas les jeux du cirque non plus. Donc moi j'étais pour cette décision là, je trouve qu'elle est très sage.
Yannick Bestaven est avec nous en direct sur RMC dans les grandes gueules, skipper de Maître Coq, le dernier vainqueur du Vendée Globe. Stephen Brun, une question pour Yannick.
Yannick, bonjour. Comment on s'adapte, qu'est-ce qu'on fait là jusqu'à mercredi alors qu'on avait mentalisé un départ aujourd'hui? Comment ça se passe les trois jours
d'attente?
Oui.
Ouais, c'est ça qui est compliqué. C'est vrai faut revoir sa feuille de route. On a déjà réfléchi les voiles qu'on allait amener, comment on allait naviguer, etc. Donc il faut se reconcentrer pour un autre départ qui sera différent dans des conditions météo différentes. Mais bon, on s'adapte bien aux imprévus en mer. Donc à terre, on sait faire aussi. Donc voilà, ça fait partie d'un imprévu et on se reconcentre de la même façon. On a deux jours, trois jours de plus pour se préparer personnellement, peaufiner sa préparation. Voilà, le temps va passer vite et moi, je suis pas inquiet de ce départ mercredi. Au contraire, moi je suis déjà dans ma course et je me concentre sur mercredi.
Mercredi 14h15, le départ, ce sera évidemment à suivre sur RMC. Sarah Pitkowski pour Yannick Bestaven.
Bonjour Yannick, est-ce que ce décalage de quelques jours est un avantage pour toi et ton bateau, sachant que c'est un nouvel IMOCA et qu'il est pas sorti. Je crois avoir lu que tu n'avais pas pu t'aligner sur le défi azimut. Donc, est-ce que c'est un avantage d'avoir encore quelques jours pour faire des réglages ou pas plus que ça?
Ah, c'est sûr que moi, je m'en cache pas. C'est le bateau, on l'a mis à l'eau tardivement. On a eu 2 mois de retard au chantier. On l'a mis à l'eau au mois de septembre. Donc, peu de navigation. Donc, il y a de la mise au point à faire. Donc, c'est sûr que de partir dans des conditions maniables, pour moi, c'est mieux pour mon projet, pour mon bateau, en vue de la qualification pour le prochain Vendée Globe. Donc, oui, c'est sûr que ça sera une mise au point plus facile à faire dans des conditions plus simple, on va dire, quoique on risque d'avoir quand même des dépressions à traverser après le golfe de Gascogne et même en partant mercredi. Mais surtout, moi, ce que je vois, c'est qu'on va aller assez vite, a priori, sur les premiers routages que j'ai fait et l'arrivée ne va pas être tant décalée que ça en partant mercredi. Donc, moi, je vois ça comme un avantage pour mon propre projet et mon bateau neuf. Ouais.
Pascal Duprat pour Yannick Bestaven.
Oui, moi, je voudrais recentrer le débat sur le sportif. On t'a pas posé de questions à ce sujet.
Oh, c'est pas notre genre.
Quels sont tes objectifs? Tout simplement, sur cette route du Rhum, t'es attendu, t'es un favori, t'as un bateau apparemment compétitif. Donc voilà, quels sont tes objectifs?
Ouais, j'ai un bateau compétitif. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai très peu navigué avec ce nouveau bateau. C'est des prototypes qu'il faut mettre au point. Donc, moi, mon vrai objectif, ma première victoire, ça sera d'arriver à Pointe-à-Pitre avec ce nouveau bateau. Et de faire des milles pour en vue de la qualification du Vendée Globe, parce qu'il faut savoir que même en ayant gagné le Vendée Globe, il faut que je me qualifie pour le prochain. Donc ça veut dire participer à des courses et faire beaucoup de milles. Donc la Route du Rhum en fait partie et il faut pas que je me trompe d'objectif. C'est-à-dire que j'ai plus à perdre à mettre la poignée dans le coin pour essayer de faire un résultat. Et j'ai beaucoup plus à apprendre à faire l'aller-retour avec mon bateau, enregistrer toutes les différents cas de figure, les datas sur le bateau pour apprendre à m'en servir de mieux en mieux et monter en puissance après pour la suite. Donc moi l'objectif vraiment principal c'est de traverser et de continuer à apprendre sur ce nouveau bateau, quoi.
Faire une course et une traversée de baignoire, donc on a bien compris. Merci beaucoup Yannick Bestaven d'avoir été avec nous en direct sur RMC, skipper, je le rappelle, de Maître Coq, le dernier vainqueur du Vendée Globe était donc avec nous dans les GG. Merci Yannick et bon courage pour ce départ et cette attente évidemment ces quelques jours. On remercie également Morgane Maury d'avoir été avec nous et d'avoir permis cette liaison avec Yannick Bestaven. 10h40, 7h44. On se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG. Et puis ne manquez pas, à partir de 11h, le bras de fer. J'y crois, j'y crois pas. Fabio Quartararo, champion du monde. La dernière course, c'est cet après-midi à Valence. Les GG ne sont pas d'accord. Évidemment, c'est à bras de fer. Et vous, allez voter sur le compte Twitter. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h30.
Jean-Christophe Drouet.
10h47, de retour dans les grandes gueules du sport à partir de 11h. Le bras de fer des GG, comme d'habitude depuis le début de la saison. Restez bien avec nous. Fabio Quartararo, est-ce que vous y croyez? Un deuxième titre de champion du monde. Il y aura une team, j'y crois, une team, j'y crois pas. Sachez que ce sera un 3 contre 1. Venez peut-être l'épauler. Je ne donne pas encore l'identité, évidemment, de nos amis qui vont s'affronter dans quelques instants. Tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des GG. Le retour.
D'autres informations à vous donner, l'actualité de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non, si tout le monde s'en fout. Vous connaissez le principe, on zappe l'information. Et je rappelle à l'ordre, évidemment, Simon Dutin qui hier m'a
dit... Qu'est-ce qu'il a fait, Simon, hier ?
Bah, hier, il m'a dit, ça je m'en fous. Et ça m'avait étonné, c'était sur la FIFA là, qui avait délivré une lettre aux fédérations en leur disant de se concentrer sur le football.
Et il est rentré dans la conversation quand même.
Bah, il m'a dit, je m'en fous. Et moi, je sais qu'il adore ce genre de sujet, il m'a dit, je m'en fous. J'ai joué l'étonné, j'ai fait, oh bon ? Et puis les trois copains ont parlé. Et tout de suite, alors je prends la parole.
Je vous invite à consulter la jurisprudence de cette émission. C'est quasiment une première de revenir sur. Effectivement, j'ai fauté, mais je l'ai fait en toute responsabilité. Hein, et c'est la première fois. Hein, je ne t'aurais jamais fait ça, c'est sûr. J'en suis sûr.
Si, c'est sûr. J'aurais même enlevé son micro. Première information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Lens, plus que jamais dauphin du PSG. On s'en fout pas. Oui, Lens, hein. Pas Lille, notre ami lillois Sarah Pitkovski, on s'en fout ou pas ?
C'est pareil. Enfin, c'est pareil.
C'est pareil.
Non, du moment qu'il y a un club du Nord qui brille,
C'est le Schnorr.
Bah voilà.
Ok, donc on s'en fout ou on s'en fout pas ?
Bah, j'ai pas grand chose à dire.
Ah oui, quand même, on s'en fout.
Mais
d'accord.
Je suis ravi pour eux.
Stéphane.
Écoute, je vais dire, je m'en fous pas si jamais je peux intervenir.
Ok, Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Simon Dutin.
Ah bah là, je m'en fous pas. Hein. Même si tu me parles de Bill Boquet, désormais, là, pour quelques semaines, je vais tout prendre.
Ok. Par stratégie.
Ah ben oui,
Lens a donc conforté sa deuxième passe au classement. Merci beaucoup, Monsieur Galabru, au classement avec une quatrième victoire de rang. Cette fois-ci, donc face à la Lanterne Rouge Angers, c'était hier 2-1. Les 100 et or reviennent à 2 points du Paris Saint-Germain, un match en plus évidemment, et prennent 6 longueurs d'avance sur les 3e, Rennes et Lorient. Francaise sur justement la place de Lens, le coach.
Ben on est haut à la 14e journée, ça c'est un constat qu'on peut facilement faire. J'espère qu'on sera haut à la 38e. D'abord, on va préparer ce match de Clermont dans une semaine à Bola. Et puis après, il y a une trêve inédite de 6 semaines. Donc il faudra bien repartir, retrouver tout le monde les uns derrière les autres pour bien repartir sur une belle dynamique. Mais il y a cette trêve, donc on va rester très prudent.
Prudent, mesuré notre ami Francaise, mais son équipe est en ballant tout de même, Stéphane.
Ouais, j'adore ce que Francaise, c'est le coach hype du moment parce qu'il fait bien jouer son équipe, c'est très bien, mais j'aime bien parce que déjà ça fait un peu de nouveauté en Ligue 1 de voir Lens dauphin du Paris Saint-Germain, on aime bien, et puis cette équipe elle est rafraîchissante. Son effectif, il le manage à merveille. La semaine dernière, c'était Openda qui met triplé. Là, il est sur le banc, il envoie Wesley Saïd. C'est Wesley Saïd qui marque. Il y a pas un mec qui fait la gueule. Il y a des rotations magnifiques. Je trouve ça bien. Alors 14 journées, c'est quand même beaucoup, hein. 14 journées, donc il pourrait peut-être s'enflammer un peu, notre ami Francaise. Après, il y a l'objectif européen. L'année dernière, ça fait 2 ans qu'il le manque de très peu ce strapontin européen. Ils ont peut-être pas énormément de joueurs qui vont être mondialistes. Je sais pas, Frankowski peut-être avec la Pologne, mais c'est une belle équipe qui va être frais encore pour la deuxième partie de saison. Moi, j'ai envie de les voir sur le podium parce que ça fait du bien de voir un petit club comme ça, pas pourri par l'argent, par le business football. C'est le terroir, voilà, c'est le terroir et ça me plaît.
Ok, ça te plaît, Pascal Duprat.
Ça me plaît beaucoup et c'est saluer le travail de Franck Hez, entraîneur français, je le rappelle. Donc,
il pourra un peu s'emballer boulot. Ou pas ? Ou il a raison de rester mesuré ?
Bon, il a raison de rester mesuré, bon, mais il doit être satisfait de son équipe.
Je veux dire, c'est pas, lui, il fait
ça fait pas 14 matchs. Ça fait pas 14 matchs que Lens tourne, hein,
non, la saison dernière.
Il tournait déjà. Donc, non, il y a du travail de fait, du travail cohérent. Il y a surtout, l'expression du collectif. Il y a de très très bons joueurs. Il n'y a pas de stars. Mais chacun fait son boulot et plus. Et puis, la rotation exceptionnelle, dans l'impression que les joueurs font pas la gueule lorsqu'ils sont remplaçants. Sotoka, il rentre, il va se défoncer comme toujours. Il est titulaire, il marque des buts. Donc voilà. Et puis, pourquoi ne pas souligner l'appui et l'apport de ce public-là? Ça pourra certainement compter, parce que le public lensois est certainement, avec celui de l'OM, un des plus beaux publics de France.
Au nord, oui. C'était les corons.
Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Djokovic Rune en finale à Bercy. On s'en fout pas, Simon Dutin.
Je m'en fous.
Bah, Simon,
regarde bien, je ne chercherai même pas à intervenir. Je m'en fous.
Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Ok, Stephen.
Moi, je m'en fous pas, mon cher Jean-Christophe.
Bien sûr, Sarah.
Oui, je m'en fous pas.
Après une belle bataille de plus de 2 heures, Novak Djokovic a donc pris le meilleur sur Stefanos Tsitsipas lors de la deuxième demi-finale. Victoire 6-2, 3-6, 7-6. Donc au troisième set, le Serbe tenant du titre affrontera, je le disais, le surprenant Holger Rune. Dimanche, le Danois qui a sèchement battu
Félix
Auger-Aliassime, pardonne-moi, 6-4, 6-2, se qualifie pour sa première finale en Masters 1000. Sarah, on se souvient de cette image, en tout cas, moi je m'en souviens, mais je le dis pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu, de Stanislas Wawrinka lors des premiers tours, qui, après avoir perdu, a salué Rune, mais lui a dit arrête de te comporter comme ça, quoi.
Ouais. Mais il est un peu comme ça, hein, Rune. C'est un jeune homme, pour pas dire un gamin. Il a tout juste 19 ans et il est un peu explosif et un peu nerveux et. Voilà, ça représente cette nouvelle génération. Mais enfin, force est de constater que cette semaine, il a gardé ses nerfs et que le match qu'il sort face à Alcaraz, où Alcaraz certes est blessé et abandonne, on est en possession de la toute nouvelle génération et ce sont des voilà, c'est un joueur à surveiller. Il a un tennis qui est très très agréable à regarder et je suis pas du tout inquiète sur la relève du tennis masculin. On va avoir des caractères différents. Des styles différents et je pense que le fameux quatuor ou même, je sais pas quand on est 5, on dit comment ?
Quintet.
Un quintet
où on mettait Andy Murray dedans avec Wawrinka, Djoko, Federer et Nadal. Je pense qu'il va se reconstituer avec la nouvelle génération, les Rudes, les Runes, les Alcaraz, voilà, les Félix Auger-Aliassime. Je pense qu'on est en train de... Voilà, d'avoir
une belle génération.
Ouais,
voilà.
Et l'opposition de style cet après-midi, j'ai très hâte de la voir parce que ça va être explosif.
Ce sera à suivre sur RMC. Grâce à Sarah, nous avons eu la chance, cette saison, mais d'aller à Roland-Garros et de voir Rune justement ensemble, oui. Mon cher Stephen. Et tu m'as dit. On l'a vu déjà sur quelques gestes, c'était face à Hugo Gaston. Il avait quelques gestes d'énervement, un peu sale gosse. Tu m'as dit, lui j'aime bien.
Tu sens le sale carafon. Je crois qu'il y a eu une petite brouille aussi avec Casper Ruud dans les vestiaires après un match à Roland Garros. C'est un gamin qui a du caractère. Maintenant, t'arrives première finale de Masters 1000, t'arrives sur le court, tu vois l'autre là en face de toi. Il va falloir être costaud.
Il
faut aussi parler de Djoko qui a peu joué cette saison et on sait pourquoi et qui est monstrueux parce qu'hier c'est un des peut-être plus beau match de tennis de 2022. Hein. Tsitsipas Djokovic était fantastique. Ça me plaît parce que Djoko se qualifie pour le Masters grâce à son classement en allant en finale. Parce qu'il y avait, quand t'es dans le top 20 mais que t'as gagné un grand chelem, t'es qualifié d'office pour le Masters. Et ben là, ça fera taire un petit peu les.
Oui, sauf qu'il gagne Wimbledon, mais il gagne 0 points. Oui. Donc c'était un
petit peu tronqué. Voilà, écoute, Holger Rune, très très bon joueur, mais je pense que Djoko va runer les espoirs de Holger.
Excellent.
Ça t'intéresse pas ma blague, tu sais?
Si, ça m'intéresse, mais
je suis ruiné, rouneux, ruiné.
Ah, ruiné.
Bon, il faut voir. Je l'avais, Steve. Enfin, je sais que tu l'avais, Simon, mais je m'en fous, donc tu peux pas parler.
Ben non, il peut pas. Voilà. J'avais pas
rigolé. Ah, je savais pas s'il a le droit de me marrer.
Non, t'as pas le droit de rigoler. Même non, pas. Évidemment. D'accord. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner. Ça se passe à Pagny-sur-Moselle. Les cours de twirling bâton changent de salle. On s'en fout pas. Simon Dutin. Tiens, toi qui veux toujours garder une cartouche au cas où.
Non, je m'en fous, là, c'est des disciplines trop techniques pour moi.
Ah, tu t'en fous ?
Ouais.
Oh, dommage. Oh, Pascal, ça t'intéresse ou pas ?
Ça m'intéresse, mais je m'en fous, quoi. J'ai rien à dire sur ça.
Okay. Moi, ça m'intéresse parce que le twirling bâton, je l'ai découvert avec Josiane Balasco dans un parking dans le film Nuit d'ivresse, Haïti et l'ermite, et tout de suite, j'ai accroché à ce sport.
Ok, bah, je te donne l'info alors si ça t'intéresse.
Je n'ai pas de commentaire à faire, mais alors, vas-y.
Alors, sachez que les cours de twirling bâton sont regroupés et se dérouleront désormais chaque mercredi de 14h à 18h dans la nouvelle salle, très belle d'ailleurs, la nouvelle salle multi-activité de la maison pour tous espaces de vie sociale. Et ce sera sous la houlette de plusieurs professeurs, et notamment, il y aura Céline, il y aura Clarisse. Voilà, on va se régaler pour préparer des chorégraphies, notamment pour Halloween, même si c'est un petit peu passé. Voilà pour cette information. Stéphane, tu voulais développer ?
Je trouve ça très bien que dans des villages, on construit des arénas capables de recevoir des événements comme ça.
Oh là là là,
je crois que Vitoire-Wembanyama et Boulogne-Levallois devraient s'en inspirer pour aller exporter, s'exporter, aller jouer dans cette ville.
Il est tellement content de lui d'avoir claqué son info. Il est 10h57. Jamais on a poussé les appuis jusqu'à cette heure-là.
À la base, c'était pour toi, Simon, parce que tu as dit je veux réagir sur tout. Alors, okay, avec Pierre Assis, on s'est dit on va lui proposer une autre information. Mais il n'est pas tombé dans le piège. Heureusement, Stéphane Brun était là. 10h57, on se retrouve dans quelques instants. Le bras de fer des GG, Quartararo, champion du monde pour la deuxième fois. Vous y croyez ou n'y croyez pas, ce sera le bras de fer. Venez participer au 32-16. À tout de suite.